d'écart incroyable, pratiquement 4 minutes sur la ligne entre Zoutemelk et Bernard Hinault. Et je vous rappelle que le retard d'Hinault au classement général n'était que de 14 secondes. Zoutemelk maintenant dans la dernière ligne droite. Et il va y avoir effectivement 4 minutes d'écart, 4 minutes pile maintenant. Top 39 secondes, c'est-à-dire qu'au classement général, eh bien Bernard Hinault a maintenant pratiquement 4 minutes d'avance sur Joep Zoutemelk, exactement 3 minutes 56 secondes si je ne me trompe pas. Maintenant, essayer de joindre dans cette foule Bernard Hinault qui est certainement aux côtés de Bernard Giroud. Vous voyez que Bernard Hinault est là sur le podium. Il est très heureux, bien évidemment. Giroud est à ses côtés.
Oui, en fait, moi je suis un cycliste qui a raté sa carrière. Donc à un moment, j'ai voulu, voyant que le désastre du vélo, faire une sorte de testament amoureux et pallier à cette sensation de désastre qui saisit tout le monde. Il y a énormément de gens qui aiment le vélo, mais on a perdu la sensation de grandeur du vélo qui n'apparaît plus nulle part, ni à la télévision, ni dans les journaux. Et à une certaine époque, et bon, tout un siècle, le cyclisme n'a pas été montré, il a été écrit. Et il a été écrit par des gens qui étaient tous à la lisière de la grande écriture, étaient tous des bons écrivains. Bon, évidemment, on connaît Blondin, mais il y en a tant d'autres. Et dès le départ, à la fin du 19e siècle, le cyclisme est né, mais en attirant à lui les plus grands écrivains, comme Alfred Jarry, qui a tout de suite compris l'essence du cyclisme, et ça a duré tout le siècle. Et le moment où le cyclisme qu'on aime, le cyclisme héroïque, lyrique de l'exploit n'est plus écrit, c'est-à-dire dans le moment de bascule des années 84, c'est le moment où Hinault va commencer à passer la main, Hinault étant le dernier cycliste héroïque vraiment surnaturellement fort et choisi par les dieux et qui n'avait pas besoin du dopage surindustriel qu'il y a aujourd'hui pour gagner, il était vraiment le plus fort dans l'absolu. Et en 84, il y a ce double effondrement, la prise de pouvoir de la télévision sur le cyclisme et la fin des grands chroniqueurs. Et je rappelle une anecdote extraordinaire de Jacques Anquetil, qui était le plus grand cycliste des années 50, quand un journaliste lui demandait après son exploit, « Alors Jacques, raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il répondait toujours qu'il n'avait rien de mieux à dire. Il attendait lui-même, comme les autres, de lire le papier du grand chroniqueur de l'époque, qui s'appelait Pierre Chagny, pour savoir ce qu'il fallait retenir et ce qu'on pouvait dire de ce qu'il avait fait. Mmh. Et donc, le jour où il n'y a plus l'écrivain pour dire la chose et qu'il n'y a que l'image, il se peut, et ça a été prouvé par le vélo, que le phénomène n'existe plus. Mmh. Et nous, on se retrouve à regarder la télé et on ne voit rien. Tout le monde ressent cette souffrance et on attend. Mmh. Et donc, moi, j'ai voulu faire ce livre en me disant peut-être que maintenant, le cyclisme est vraiment mort. C'est né il y a un siècle. Et ça s'arrête peut-être. Ce qu'on voit là est une imitation et on sent bien au fond de nous-mêmes que c'est pas ce qu'on attend. Mmh. Et donc j'ai voulu faire un testament à la gloire de ce qui peut être un sport disparu, je ne sais pas.
Les hommes de tête que nous apercevons, il en manque parmi eux. Il manque, voici Buffoy qui est en tête devant Benedetti. Et Ogna, Bailetti était avec eux, Maliépar a été lâché, Puchel aussi, et Bailetti était victime d'une chute à 10 km de l'arrivée. On craint même que cette chute soit assez sérieuse. Les trois hommes sont maintenant
demain
sur la piste.
Commencera le grand rituel du Tour de France. Et le départ en sera donné à Florence, dans le Gers. Nous suivrons bien sûr quotidiennement les étapes de ce tour. Il y en aura 24. Un itinéraire de 3600 km avec un petit détour par la Belgique. 150 coureurs sur ce départ en montagne.
Je pense que peut-être qu'une partie du tour, ça va faire comme il y a deux ans. Je pense qu'il y aura déjà une partie des coureurs qui seront
sans doute surgir à 200 mètres de l'arrivée. Et Buffoy est là maintenant. Il n'y a
personne à surveiller. Après, il y a tout de suite après, il y a un contre-la-montre par équipe.
Est annoncé sur l'entrée, mais le sprint va peut-être
là et on verra les écarts qu'il y aura avec les autres.
Qui réussit à se dégager. Premier Benedetti, deuxième Ogna, troisième Buffoy. Et voici maintenant Buffy, Pete Van Est et Groussard devant Zone Canaro qui en tête du peloton. Pénètre sur cette piste du Parc des Princes. Voilà décidément un tour qui se termine d'une manière très mouvementée comme toujours. Et Jacques Anquetil apparaît maintenant sur la piste du Parc avec son maillot déchiré. Il semble souffrir, mais il a déjà gagné son Tour de France maintenant. Puisque les temps est entré à l'entrée du Vélodrome, il ne peut plus rien d'autre lui arriver, même s'il ne franchissait pas la ligne. Donc, pour la quatrième place maintenant, regardons arriver Buffy. Non, Pete Van Est saute sur la ligne. quatrième, cinquième Broussard, sixième Baffi.
Oui, le constat est violent, je dis que le cyclisme est mort, mais un certain cyclisme est mort, qui était lié aux profondeurs du peuple français, qui aujourd'hui est en instance de sacrifice. L'impression de l'excellence et du besoin aristocratique qu'ont eu certaines personnes du peuple le plus réprimé depuis le début du siècle. Et à un moment où le cyclisme aussi s'est lié à la grande littérature française à travers Jarry et Céline, il s'est trouvé que les gens qui souffraient, ouvriers et paysans, ont trouvé une façon d'exprimer quelque chose de grandiose dans le vélo, mais ils ont eu surtout cette chance que de grands chroniqueurs, de grands écrivains aient su le dire. Et à un moment, l'héroïsme qui était au cœur de ces gens-là s'est effondré ou n'a plus été perceptible et leur souffrance n'a plus été acceptable. Et surtout, il s'est trouvé aussi qu'il n'y avait plus ni de chroniqueurs ni d'écrivains pour dire leurs gestes. Oui, effectivement, dans les cités, comme il n'y avait rien, on était un peu censé accepter les choses du temps. On était obligé de regarder certaines émissions, de manger certaines choses et de jouer à certains sports. Et j'ai un oncle qui est arrivé un soir et qui m'a offert un énorme livre, La fabuleuse histoire du cyclisme de Pierre Chany, qui a été pour moi un choc littéraire et un choc physique, et où j'ai eu la sensation qu'il était invisible à Sarcelles dans les cités, et c'est bien ça le point fort des cités, c'est que la grandeur y est invisible, et là j'ai vu ce que c'était que la grandeur dans un livre. Et par la simple splendeur des phrases, j'ai décidé d'être cycliste, ça tenait à rien. Voilà, oui, entre devenir cycliste et devenir champion, il y a un monde, donc je suis devenu simple cycliste, et j'ai essayé de payer ma dette envers le rêve, en faisant ce livre. Le sport n'est pas quelque chose d'évident. C'est pas parce que ça passe à la télévision que ça existe. Le sport, l'essence du sport ne peut être perçue de sa façon la plus admirable que si elle est dite et écrite. Je pense que pour l'instant, rien de grandiose n'a été écrit sur Federer, qui est un génie fabuleux, alors que McEnroe avait eu la chance d'avoir Deleuze. Norman Mailer avait écrit sur Mohamed Ali et avait encore augmenté son prestige. Moi, j'en reviens à cette phrase du poète ancien Pindare qui disait que l'athlète a besoin du poète pour que l'exploit soit consacré. Et aujourd'hui, où finalement la question de l'écriture est totalement éliminée, la honte de l'écriture génère la honte de l'exploit et toute cette grandeur passe à la trappe. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. C'était pour sauver ces choses-là par l'écrit et pas par des images. Les deux. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment rentré pour voir Pierre Chany, pour voir Hinault, qui étaient les deux dernières grandes figures à l'antique. Et aujourd'hui, je suis dans la souffrance, comme tous les gens qui aiment le cyclisme, parce que autrefois, les dopages étaient dérisoires et les exploits énormes. Aujourd'hui, les exploits sont minimes et le dopage énorme. Et j'étais venu pour les voir, mais une fois que l'un et l'autre ont été minorés, par l'arrivée de la télévision, par la façon dont les journaux ont décidé de plus laisser les grandes plumes s'exprimer, j'avais plus rien à faire. Donc je suis arrivé pour voir et la fin d'Hinault et la fin du Grand Chany, et j'ai démissionné.
Ou le souffle plus court ou le souffle plus rapide. Un coureur qui est derrière, souvent va changer de plateau, il va changer de pignon. Et ça, on l'entend.
Hubert est en train de se battre là-bas. Regardez Hinault devant.
Même le bruit d'un boyau, c'est quelqu'un qui va plus vite ou qui démarre.
Regardez-le là-bas, toujours devant, en tête. En tête avec Eric Hubert au maillot maculé debout.
On lutte contre le vent, on lutte contre le parcours, contre les plaques d'aiguille, les plaques blanches, les passages cutés et tout ça. Bon.
C'est par lui que le cyclisme s'achève. Il l'achève à sa façon en refusant la légende qu'il a contribué à créer, mais il est aussi le dernier très très grand coureur. Et justement, cette course-là, je la revois la nuit sur YouTube. Il a fait des choses hallucinantes. Je la connais par cœur, mètre à mètre. Et il a honoré la course d'une façon que les coureurs ne font plus aujourd'hui. Dans le dernier Paris-Roubaix, les deuxièmes et troisièmes sont arrivés battus sur le vélodrome et dans le lieu sacré ne se sont même pas levés de la selle pour tenter un sprint, même pitoyable. Ils n'ont pas lutté. Donc en fait là, ils étaient eux totalement séparés de la légende de la course. Oui, j'ai parlé uniquement des cyclistes qui avaient programmé leur carrière comme une partition. C'est-à-dire, c'est pas des cyclistes qui acceptaient la lutte, les chauffourées, typique de tous les autres sports où on lutte comme des chiffonniers pour avoir la balle ou autre. Ça, c'est des gens qui se sont échappés de la curée et qui ont développé un phrasé anctil. Ils décidaient qu'ils allaient faire telle chose, ils la faisaient. Copie décidait de partir le matin et de ne pas gagner en haut du col en se battant avec les autres, mais de traverser des massifs entiers seuls. Bien sûr, et ça c'est la grande vérité qui fait que le cyclisme n'est pas un sport, c'est beaucoup trop difficile. Alfred Jarry, le premier à la fin du 19e siècle, a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'autre dans l'extrémisme et le maximalisme du vélo, puisqu'il a écrit ce texte hallucinant qui s'appelle de la passion du Christ, considéré comme une course de côte. Donc il a tout de suite vu qu'il y avait autre chose qui se jouait par rapport au sacré et au sacrifice dans le vélo. Voilà, le plus grand écrivain populaire français qui est Céline, qui invente, il le dit lui-même, une aristocratie du verbe, il dit, et en plus il dit la seule noblesse, ce sont les jambes qui la confèrent. Le dernier style révolutionnaire qu'il met au point pour ses derniers livres lui est inspiré par un vélo entièrement ouvragé par des gamins du peuple, qui eux-mêmes ont créé une noblesse de façon des fois caricaturale, mais qui ont voulu créer un geste et qui ont inventé le langage du vélo, l'expression les forçats de la route, c'était les frères Pélissier. Donc la jonction du peuple et de l'aristocratie du style s'est faite avec Céline.
L'histoire de Bergerac est riche en dates, faits et hommes célèbres, mais aujourd'hui le Tour de France y ajoute une page. Après le prieuré Saint-Martin, les batailles contre l'anglais envahisseur, la réforme, les rencontres de Sully avec les envoyés de Henri III, Monsieur Lacanal et l'immortel Cyrano, voici les chevaliers de la petite reine, l'escadron spécialisé qu'on appelle les rouleurs. Contre la montre, avec départ individuel, c'est la 19e étape du Tour de France qui est disputée sur 74 km 500 de Bergerac à Périgueux. Il est 11h27 et le Suisse Rolf Graff vient de partir. Voici maintenant Thiey, le héros des Pyrénées.
Il n'a rien changé à son allure. Il monte toujours.
Et nous allons ainsi assister à quelques départs des hommes les plus en vue de ce Tour de France, en remontant progressivement vers l'avant et en revenant pour assister finalement au départ de Jacques Anquetil dans quelques instants. Mais voici maintenant Henri Anglade, l'ex-champion de France qui termina deuxième du Tour de France et qui gagna un critérium du Dauphiné libéré, l'un des bons spécialistes du contre-la-montre. Et ici Joseph Plancard.
Le trio est reformé. Les trois premiers du classement général.
Saint-Bernard en témoigne qu'à leur manière, avec une certaine turbulence d'ailleurs, cette année, c'est dans les Alpes que s'est joué le Tour de France. Les Pyrénées n'avaient été qu'un hors-d'œuvre, une promenade en quelque sorte, sauf pour le Belge Van Looy, pris à froid dans la montagne. En revanche, les Alpes n'ont pardonné aucune défaillance, et Dieu sait s'il y en a eu. La plus dramatique, celle de l'un des favoris, Raymond Poulidor. On attendait un trio, sans Poulidor, out, la bataille des Alpes s'est résumée en un duel Anquetil-Bahamontès. Bahamontès, numéro 41, le roi de la montagne, est encore maillot jaune avant l'arrivée à Chamonix. Et Jacques Anquetil, qui est vraiment le Superman de ce Tour 1963, fait à cette occasion la preuve de ses immenses qualités. Anquetil gagne la grande étape des Alpes à Chamonix, c'est là qu'il a remporté le Tour de France. Cette année, il n'a pas eu besoin de l'étape contre l'Alpes.
Tout le monde ressent cette souffrance et on attend. Et donc moi j'ai voulu faire ce livre en me disant peut-être que maintenant le cyclisme est vraiment mort, c'est né il y a un siècle et ça s'arrête peut-être. Ce qu'on voit là est une imitation et on sent bien au fond de nous-mêmes que c'est pas ce qu'on attend. Et donc j'ai voulu faire un testament à la gloire de ce qui peut être un sport disparu, je ne sais pas. En fait, les deux vecteurs des gens de rien, des gens pauvres, des gens opprimés, c'était la boxe et le cyclisme. La boxe et le cyclisme attiraient à eux tous les meilleurs. Et après-guerre, les grands cyclistes et les grands boxeurs, disons les choses directement, attiraient toutes les plus belles femmes et les meilleurs écrivains. Aujourd'hui, pour un jeune, faire du cyclisme, c'est quand même arriver dans la vie avec une chape de honte sur les épaules. Et les meilleurs sportifs, à un moment, qui sont doués en tout, vont préférer faire du foot, du tennis, de l'athlétisme. C'est compliqué. Ce que je pourrais dire pour résumer, parce qu'il y a toujours eu du dopage dans le vélo dès le départ. C'est un sport qui n'a pas été conçu comme un loisir, comme un sport. Ça a été un sport tout de suite conçu pour développer une impression de surnature. Donc la folie du surnaturel, de la surpuissance humaine a été mise à jour tout de suite par le vélo. Les premières courses, c'était Paris-Brest-Paris, d'une traite 1200 km, Bordeaux-Paris, 600 km d'une traite. Donc tout de suite, la question de la surhumanité est apparue, donc légèrement le dopage. Mais Au final, les dopages étaient pendant presque un siècle relativement dérisoires et les exploits énormes. Aujourd'hui, j'inverserai la proposition et tout le monde sent ça. Les dopages sont énormes et les exploits dérisoires. Donc Armstrong a absolument tué le cyclisme, mais il a fait qu'achever une courbe qui était déjà engagée avec la fin de Bernardino. Disons que avec l'apparition de l'EPO dans les années 90, il se passe quelque chose de très simple, c'est que le coureur élu par les dieux, je dis ça de façon un peu naïve, mais tout le monde comprend très bien ce que je veux dire, le corps d'Anctil était un corps élu par les dieux, Faustocopie, Ino pareil. À partir de là, des gens qui ont un corps médian, grâce au dopage, ont un corps supérieur. Et la tricherie advient parce que un très grand champion ne peut pas être propulsé tellement plus haut par le PO. Et si Ino avait été aujourd'hui face à Armstrong, il n'aurait pas été plus fort parce qu'il était déjà tellement haut que la chimie ne pouvait pas le potentialiser plus. Alors qu'un corps médiocre est surpotentialisé par les nouveaux dopages. Bah voilà, c'est un moment extraordinaire. On ne sait pas si on a sous les yeux un anarchiste qui est arrêté par la police politique après avoir fait le coup de force dans une grange, comme pendant la bande à Bono, des choses comme ça. Non, c'est un grand champion qui vient de gagner Paris-Roubaix, mais qui est drapé de dignité et de douleur. Et j'ai mis cette photo parce que c'est aussi toute la double assise du livre, qui est à la fois politique et politique, de dire qu'à travers l'effondrement du cyclisme tel qu'il s'opère aujourd'hui, c'est la fin de l'héroïsme, mais c'est aussi surtout la fin du respect et de l'adulation qu'il y a quand même eu en France pour les gens très pauvres qui inventaient un langage, qui s'en sortaient. Il y a quand même sociologiquement aujourd'hui une honte et une haine contre les gens pauvres qui n'a jamais été aussi manifeste. Et je crois aussi que la honte vis-à-vis du cyclisme, qui est un sport de douleur, recoupe une position sociologique globale. C'est-à-dire que, en fait, le dépassement de soi est toujours à l'ordre du jour aujourd'hui, mais dans l'obéissance et la passivité, c'est-à-dire devenir esclave d'une entreprise, c'est ça qu'on nous propose. Mais se dépasser soi-même et toutes les limites pour créer son destin, et c'était ça que le vélo a inventé à travers les grands champions, qui a été un exemple extraordinaire pour plein de générations, c'est plus le cas. Poulidor, il a subi. Anctil, il a décidé. Copy a décidé. Ino a décidé. Je parlais de gens qui avaient une puissance de décision qui débordait la question du cyclisme. Et du coup, je pense que le point de départ très étrange de tout ça, c'est quand même sa part d'Alfred Jarry, la fin du 19e, et surtout après la Commune, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu un effondrement réel du peuple qui était totalement brimé. Rimbaud, c'est le contre-coup de la Commune. Une fois que Rimbaud, tous ces gens-là n'ont plus d'espoir, il y a toute une masse de réprouvés qui finalement hésitent entre la Commune 1870-75, le départ des troupes allemandes en 74, jusqu'à la Grande Guerre de 14, où les gens savent pas trop s'ils vont faire anarchistes, braqueurs, poètes symbolistes. Ils sont tous dans un maximalisme et un désespoir. Et beaucoup de ces gens qui auraient pu être poètes ou anarchistes, d'où le choix de cette photo, décident de faire coureur cycliste en se comportant comme des voyous aussi. Alors ça, c'est très étrange. En fait, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait très peu de femmes dans ce livre. Et il y a une histoire que j'avais pas pu tellement élucider, mais qui est extraordinaire, que je raconte très vite, parce que pour montrer ce que c'est que la noblesse à travers Jacques Anquetil. Anquetil, fils de marchand de fraises et cultivateur et assez misérable, devient le plus grand champion, tombe amoureux d'une femme de notable, et la nuit, va la kidnapper, déguisée en égoutier avec son copain dans un Citroën tube dont tout le monde se souvient. Ils arrivent déguisés en égoutier, elles sortent chez elles pour acheter du pain en chaussons, ils l'emmènent. Arrivés au faubourg Saint-Honoré, ils sortent de la voiture, ils vont dans un grand hôtel, ils achètent tous les plus beaux habits cash, visons, bijoux, ils dorment dans un grand hôtel. Un troisième acolyte amène une voiture de sport et l'emmène sur la Riviera le matin. Donc c'était la conception de la vie de ces champions.
Les trois échappés attaquent ensemble les premières rampes de l'Aubisque, mais assez rapidement, le sud-est Bernard Gauthier se détache et franchit seul le sommet du fameux col. Derrière lui, Bartali, Bobet et Robic se sont regroupés, les fuyards seront absorbés et Bartali franchira le premier la ligne d'arrivée à Lourdes. Ayant conservé son maillot jaune, est félicité par Mgr Tasse avant le départ pour Toulouse, qui s'effectue devant la fameuse basilique.